Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 4 avril 2023, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Comparution ce mardi de l'ex-président américain Donald Trump devant un tribunal de New York où il a été inculpé dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à une star du porno. Dakar cherche à identifier les dépouilles d'une vingtaine de Sénégalais qui sont noyés fin mars dans le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. En RDC, 6 morts et plusieurs dizaines de disparus dans un naufrage d'une grande pirogue à moteur sur le lac Kivu. Une femme et un Africain-Américain iront autour de la Lune en 2024, une première. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Donc, l'ancien président américain Donald Trump va comparaître ce mardi au tribunal à New York pour être formellement accusé au pénal dans une affaire de paiement à une star du porno en 2016. Un fait sans précédent pour un ancien chef de l'exécutif américain. Ce sera lors d'une audience sans précédent sur son inculpation qui divise et fascine l'Amérique, Mohamed Humfa.
Le républicain de 76 ans, candidat à l'élection présidentielle de 2024, est convoqué devant le juge à 14h15 heure locale, 18h15 GMT, pour se voir notifier les charges qui pèsent contre lui. Une fois au tribunal, il est censé se soumettre au rituel que connaissent tous les prévenus, décliner son nom, âge, profession, effectuer un relevé d'empreintes digitales et être pris en photo éventuellement. Pour un de ses avocats, en effet, cette photo ne serait pas nécessaire puisque tout le monde sait qui est Donald Trump. Il est clair que le statut si particulier de M. Trump pourrait nécessiter quelques arrangements avec la procédure habituelle et rien ne dit que les choses se passeront comme prévu. D'après Joe Tacopina, son avocat, il ne sera pas menotté mais pourrait avoir à traverser des couloirs du tribunal en présence des médias. Leurs caméras ne seront cependant pas admises dans la salle d'audience après qu'un juge en a décidé ainsi lundi soir, selon les médias américains. M. Trump comparaîtra devant le juge Yuan Merchan, qui a supervisé l'an dernier le procès pour fraude fiscale de la Trump Organization. Le juge lui lira l'acte d'accusation et pourrait lui demander s'il compte plaider coupable ou innocent. Si la question est posée, Donald Trump plaidera non coupable, a fait savoir son avocat. L'audience peut aussi servir à fixer des conditions à sa remise en liberté et à déterminer le prochain rendez-vous judiciaire. Ce magistrat me déteste, a écrit Donald Trump vendredi à propos du juge Merchan. Les chefs d'inculpation n'ont pas encore été rendus publics, même si quelques éléments ont fuité dans les médias, suscitant hier soir la colère de M. Trump, qui s'en est encore pris au procureur Alvin Bragg de New York. Ces charges seraient une trentaine, liées à la falsification des documents d'entreprise, selon des sources proches du dossier. M. Trump devrait ensuite être laissé en liberté en attendant l'organisation de son procès. Le républicain a d'ailleurs donné rendez-vous à ses fidèles en Floride le soir même pour une conférence de presse. Donald Trump clame son innocence et assure être victime d'une chasse aux sorcières.
Merci Mohamedou. J'ai contacté à New York notre collègue d'Elite Déco pour l'ambiance dans cette ville.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ambiance pour l'instant est très calme ici à New York. L'ancien président Donald Trump est arrivé lundi, donc hier, pour se rendre aux autorités et comparaître, je rappelle, pour la première fois devant un tribunal pour répondre à des accusations criminelles. Ses partisans ne sont pas encore sortis, mais il est prévu que ce mardi matin, les partisans pro-Trump se rassemblent vers 10h, heure locale, avec en tête du rassemblement la représentante au Congrès, Marjorie Taylor Greene, une fervente supportrice de Donald Trump. Les journalistes sont déjà très nombreux en matinée, les policiers aussi, en face des bureaux du procureur de Manhattan, à 5 minutes de ceux de la VOA à New York. Et donc, je suis dans le feu de l'action et j'attends que les rassemblements commencent.
Et à quoi peut-on s'attendre ce mardi ?
Le moment le plus attendu de la journée, c'est bien sûr l'arrivée de Donald Trump dans les locaux du procureur de Manhattan. Pour l'instant, on ne connaît pas l'heure exacte de son arrivée, mais ce sera dans l'après-midi. Ça, c'est sûr, parce que la comparution est prévue à 14h15. Au cours de cette comparution, les accusations criminelles à l'encontre de Donald Trump seront officiellement dévoilées. Il est attendu qu'il plaide non coupable. Donc, on attend de voir tout cela. Ensuite, le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, va prendre la parole. Il a fait savoir qu'il va tenir une conférence de presse vers 15h30. Donc, on prévoit pour la journée trois grandes étapes. Donc, les rassemblements, l'arrivée de Donald Trump et sa comparution devant la justice, et puis la conférence du procureur Bragg. Il y aura plus d'informations à venir sur cet événement historique au cours de la journée.
Merci Dilly Dico qui nous parlait de New York. Dans le reste de l'actualité, Dakar cherche à identifier les dépouilles d'une vingtaine de Sénégalais qui sont noyés dans la nuit du 23 au 24 mars dans le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. Une mission sénégalaise s'est rendue à Sfax, au point de départ de l'embarcation, pour une mission d'identification des corps selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères lundi. Pour le moment, aucune des dépouilles repêchées par les gardes-côtes tunisiens ne correspond à nos compatriotes disparus dans ce naufrage, indique le ministère, qui ne donne pas d'indication sur le nombre de corps. Plusieurs dizaines de migrants sont morts dans une série de naufrages et d'autres sont portés disparus depuis le violent discours le 21 février du président Kais Saied sur l'immigration clandestine. Au moins 6 personnes sont mortes ou noyées et plusieurs dizaines sont portées disparues après le naufrage dans la nuit de dimanche à lundi d'une grande pirogue à moteur sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, Jacques Aristide.
L'embarcation appelée Boat était partie de Mougoté sur la côte sud-est de l'île Djiwi dans la région du sud Kivu. Chargée de commerçants et de leurs marchandises, elle allait vers Goma, capitale de la province voisine du nord Kivu. Un vent fort l'a fait chavirer à environ 20 km de son point de départ, d'après un agent du commissariat lacustre de Mougoté. Selon une autre source administrative, la pirogue transportait environ 150 passagers. Il y a 80 rescapés et les corps de 3 femmes et de 3 enfants ont été récupérés. Les recherches se poursuivaient hier pour tenter de retrouver d'autres corps. En RD Congo, pays qui compte très peu de routes praticables, les déplacements se font souvent sur les lacs, de même que sur le fleuve Congo et ses affluents où les naufrages sont fréquents.
En Russie, la défense du journaliste américain Evan Gershkovitch, arrêté la semaine dernière pour des accusations d'espionnage qu'il rejette, a fait appel lundi de son placement en détention. C'est ce qu'a indiqué un tribunal de Moscou. Ici à Washington, un porte-parole de la Maison-Blanche a dit hier que les diplomates américains n'ont toujours pas pu prendre contact avec le confrère Michel Joseph.
La représentation diplomatique des États-Unis en Russie fait beaucoup d'efforts pour établir un accès consulaire à Evan Gershkovitch et nous n'y sommes pourtant toujours pas arrivés, a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, un organe rattaché au président Joe Biden. Cette situation mobilise tout le monde, y compris le président, a-t-il ajouté, précisant que les discussions avec les Russes vont continuer. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener Evan et Paul Whelan, autres Américains prisonniers en Russie, a-t-il déclaré dans un entretien avec des journalistes. Evan Gershkovitch, correspondant en Russie du Wall Street Journal, a été arrêté à Ekaterinbourg, dans l'Oural, par le service fédéral de sécurité qui l'accuse d'espionnage. Le Wall Street Journal et le reporter démentent ces accusations. Le président Joe Biden a réclamé sa libération, qualifiant de ridicule les accusations d'espionnage.
Après 3 décennies de non-alignement militaire, la Finlande rejoint ce mardi l'OTAN, un tournant stratégique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui qui a bouleversé la sécurité en Europe et rebattu les cartes, poussant la Finlande et la Suède à vouloir rejoindre le parapluie protecteur de l'OTAN. Pour la première fois, un Africain-Américain, Victor Glover, et une femme, Christina Hammock-Koch, iront vers la Lune. La NASA a dévoilé lundi le nom des 4 astronautes qui se rendront autour de notre satellite naturel fin 2024, après plus de 50 ans d'absence. Les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Hammock-Koch, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen, formeront l'équipage d'Artemis 2, a annoncé la NASA à Houston, au Texas. La Minute Éco, Nanit Talani.
Pour libérer son potentiel de croissance, le Cameroun doit mettre en œuvre des réformes structurelles dans sa stratégie nationale de développement, estime le FMI. Il faut aussi, d'une part, renforcer l'inclusion financière, la transparence, la gouvernance et le cadre anticorruption, et d'autre part, améliorer l'efficacité des investissements et le climat des affaires, poursuit le FMI. Au Soudan, le prix de l'essence est monté à 588 livres soudanaises le litre, contre 520 livres le mois dernier. Les prix du diesel, en revanche, tombent à 582 livres le litre, contre 600 livres en mars, a annoncé dimanche le ministère de l'Énergie et du Pétrole sud-soudanais. Pour terminer, les services aériens aux pays d'Afrique risquent de souffrir s'il n'y a pas de progrès dans les pourparlers pour débloquer les sommes qu'ils doivent aux compagnies aériennes et dont ils bloquent le rapatriement, avertissent ces compagnies. L'Afrique retient, pour diverses raisons, environ 1,6 milliard de dollars des fonds de ses sociétés aériennes. Ce chiffre représente les 2/3 du total mondial, a déclaré l'Association internationale du transport aérien lundi.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La FIFA a doté la Fédération camerounaise d'infrastructures sportives.
Oui, il s'agit notamment d'un centre technique dédié à l'encadrement des footballeurs. Il a été réceptionné en banlieue de Yaoundé par le président de la FECAFOOT, Samuel Etofis. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Gelentap.
Samuel Eto est apparu plus jovial lors de la réception des nouvelles infrastructures du centre technique de la FECAFOOT. Au lendemain de son élection en décembre 2021, comme président de la Fédération camerounaise de football, l'ancien international a eu à visiter l'aire agacée, ce chantier à la traîne depuis 2010. Cette fois, le projet a définitivement pris corps. Cyril Faumeneux, ingénieur de génie civil et conducteur des travaux.
Notre entreprise a eu l'achat de construire l'hôtel des Lions et Lyon, qui est un bâtiment R plus 1 composé de 29 chambres et d'une suite pour le coach, avec une salle de conférence, une salle de réunion, un bloc spa, une salle de sport. Nous avons également construit le bloc réfectoire, où il y a une cantine pour les joueurs, le bâtiment administratif pour la direction technique nationale et la réhabilitation des 2 bâtiments existants pour les joueurs locaux.
La direction technique nationale est l'une des bénéficiaires de la nouvelle infrastructure. Angelbert Mbarga, directeur technique national adjoint, explique la mise en application de la politique du football camerounais dans ce centre.
Il s'agira d'accueillir l'élite du football, c'est-à-dire les sélections, toutes catégories confondues, les catégories inférieures. Il s'agira d'organiser football de masse que nous appelons grassroots, c'est-à-dire au niveau de la découverte pour les jeunes enfants, les jeunes filles. Il s'agira également d'organiser des formations pour les entraîneurs, des formations diplômantes et des recyclages et perfectionnements.
Le nouveau centre technique s'étend sur 6 hectares avec une aire de jeu opérationnelle. La FIFA y a contribué pour environ 2,5 millions d'euros pour le développement du football. Samuel Eto, président de la Fédération camerounaise de football.
Je suis heureux parce qu'on a un bel outil de travail, mais ceci étant dit, on a commencé en 2010, ce qui veut dire qu'on a perdu beaucoup de temps, mais nous sommes satisfaits parce que les enfants pourront travailler dans des conditions très acceptables. Un vide que comblé grâce à la FIFA surtout, ça il faut le reconnaître, grâce à la FIFA, mais j'insiste, on a perdu beaucoup de temps.
Le président de la FECAFOOT a annoncé son souhait de construire 12 stades de proximité durant son mandat. Yaoundé, Emmanuel Gelentap. VOA Afrique.
Merci Emmanuel.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, des dizaines de jeunes musulmans et chrétiens se sont rassemblés sur la place publique de Ouagadougou pour rompre le jeûne ensemble, promouvant la tolérance religieuse pendant le Ramadan et le Carême, alors que le pays est aux prises avec la montée de la violence des djihadistes. Le point avec sa Blanche Sanou.
Organisé par un groupe interconfessionnel local composé de jeunes, l'événement a vu des musulmans et des chrétiens partager de la nourriture fraîche et des prières dans un acte symbolique contre les forces militantes cherchant à exploiter les divisions ethniques et religieuses, selon Wenkuni Damien Ouedraogo, catholique, un des organisateurs.
Nous avons d'abord remarqué que la cohésion religieuse est la chose la plus importante. Pourquoi ? Parce que si deux groupes de religions différentes arrivent à vivre ensemble, beaucoup de mots dans la société seront totalement révolus. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de lancer cette initiative, afin de permettre à tout un chacun de savoir que l'autre qui se trouve dans l'autre religion est son frère.
Selon des statistiques officielles de 2019, environ 64% des Burkinabés adhèrent à l'islam, tandis qu'environ 24% s'identifient comme chrétiens. Les jeunes Burkinabés disent vouloir aller aujourd'hui au-delà des différences religieuses. Mamadi Ouedraogo est musulman, il est aussi co-organisateur de cette activité.
Ceux qui malheureusement ont pris les armes contre le pays, nous espérons que notre message d'espoir pourrait contribuer également à ce que les cœurs s'adoucissent et qu'on puisse déposer les armes, que les cœurs puissent s'affermir et que effectivement les tensions puissent baisser. Parce que nous sommes des Burkinabés, c'est notre pays. Si nous ne nous engageons pas à faire de ce pays un pays de rêve, un pays où faire bon vivre, c'est nous qui serons les plus gros perdants.
Un événement apprécié par les leaders religieux qui pensent que cela est nécessaire pour la paix et la sécurité au Burkina Faso et dans le monde. C'est le cas du prêtre Dominique Appé.
Je dirais même que la tolérance religieuse au monde entier est une nécessité. Parce que nous servons le même Dieu qui est amour, qui veut la paix et qui veut le bien de tout le monde. Mais si nous rentrons au Burkina, la situation que nous vivons aujourd'hui nous appelle à nous unir, à vivre ensemble. Parce que Dieu est amour. Dieu veut le bien de ses enfants. Dieu n'est pas là pour la guerre ou pour le malentendu, mais Dieu veut que nous entendions et que nous soyons vraiment des fils de la lumière, de la paix.
Pour rappel, le Burkina Faso est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest à lutter contre une insurrection islamiste. Des milliers de personnes ont été tuées et plus de 2 millions déplacées dans la région du Sahel où des groupes militants ont exploité les clivages ethniques et religieux pour alimenter la violence.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La bande sahélienne menace de devenir la plus grande zone de non-information de l'Afrique, selon Reporters sans frontières. Dans un rapport intitulé « Dans la peau d'un journaliste », l'organisation revient sur les menaces et pressions qui pèsent sur les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions dans le Sahel. À quoi ressemble aujourd'hui le quotidien d'un journaliste dans le Sahel ? Alexandrine Ollognon a posé la question à Sadibou Maron, responsable du bureau Afrique subsaharienne de RSF.
Dans le Sahel, les journalistes sont dans un contexte extrêmement compliqué. On ne peut généralement pas prendre son initiative personnelle pour aller faire du reportage de la manière la plus indépendante parce qu'il y a le marteau des forces de sécurité et l'enclume également des forces terroristes. Les forces de sécurité vous disent que oui, c'est des zones interdites et quand elles vous y arrêtent, ils peuvent même aller jusqu'à vous considérer comme un ennemi de la nation. Les djihadistes ou les terroristes, c'est là. Le journaliste constitue de la proie facile. Ils vont vous présenter comme un journaliste déjà capturé et ils peuvent vous utiliser comme un peu de monnaie d'échange. Et dans des pays à junte aussi, il y a des injonctions patriotiques. Ce narratif pro-junte également qui a même depuis quelque temps émergé au Burkina Faso avec le collectif de défense des militaires qui sont souvent les premiers boucliers de la société contre tout journaliste ou tout activiste ou même en tout cas toute voix discordante qui serait amenée un peu à critiquer les jeunes et ces gens-là, ils vont vous lâcher sur les réseaux sociaux.
Le tableau que vous décrivez est bien sombre, mais vous dites quelque part que les journalistes peuvent être protégés et vous faites appel aux organisations comme la CDAO pour un code de conduite sous-régional pour protéger les journalistes.
Oui, le tableau est effectivement sombre parce que le rapport que nous publions aujourd'hui, il y a des éléments du rapport qui sont un peu sur un monitoring d'une dizaine d'années depuis la mort en 2013 de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon au Mali. Et c'est important aujourd'hui que le Sahel ne puisse plus être une zone de non-information. Pour que le Sahel ne puisse plus être une zone de non-information, il faudrait d'abord mettre en place les garanties importantes, les garanties nécessaires pour que les journalistes qui font collecter de l'information, revenir la traiter, la diffuser, le fassent de manière beaucoup plus assez sécurisée, d'où l'importance un peu d'avoir ce code de conduite sur la sécurité des journalistes, qui serait un outil communautaire. Dès l'instant que c'est acté à un niveau communautaire de la CDAO, ça va engager tous les pays et ça va davantage contribuer à protéger les journalistes, qu'ils soient des journalistes qui sont des correspondants internationaux, mais également des journalistes locaux.
Malgré la menace des groupes armés et aussi la pression des gouvernements, il y a des journalistes qui continuent d'exercer sur le terrain. Comment faire? Quelle est l'attitude à adopter pour ces personnes qui continuent d'exercer pour qu'elles puissent donner l'information, mais aussi ne pas trop s'exposer eux-mêmes?
Aucun reportage aujourd'hui ne vaut la mort d'un journaliste. Nous, notre rapport ne demande pas aux journalistes d'aller se jeter dans des endroits très insécurisés, dans des endroits difficiles qui ont des problèmes de sécurité. Non, il faut rester journaliste et rester journaliste, c'est développer des standards de fiabilité, d'intégrité de l'information, mais ne pas prendre des risques inutiles parce qu'après, le reportage que vous ne ferez pas, quelqu'un d'autre le fera.
Sadibou Marang, responsable du bureau Afrique subsaharienne de RSF.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Alors que la guerre civile en Éthiopie touche à sa fin et que les communications sont coupées dans la région du Tigré, la Croix-Rouge aide les familles réfugiées au Soudan à retrouver leurs proches qui n'ont pas pu échapper au conflit. Henry Wilkins de la VOA a rencontré à Khartoum un homme qui recherche désespérément son parent perdu durant le conflit. Le récit est de Thierry Kaoré.
À Khartoum, une communauté d'expatriés de la région éthiopienne du Tigré, installée depuis longtemps, voit arriver des réfugiés et enfuit la guerre qui a sévi pendant 2 ans au Tigré. Bien qu'un accord de paix ait mis fin à la guerre en novembre 2022, certains réfugiés continuent de venir dans les camps situés à proximité de la frontière éthiopienne. C'est le cas de cet homme que nous appellerons Gedachew, un nom d'emprunt afin de le protéger, lui et sa famille. Maintenant que les services de téléphonie et d'Internet ont été rétablis dans le Tigré, de nombreuses personnes comme lui sont à la recherche de parents disparus dont elles ont été séparées pendant la guerre. Gedachew n'a pas vu son père, un soldat de l'armée tigréenne, depuis le début de la guerre.
Il était militaire, c'était un soldat, mais nous ne savons pas s'il est vivant ou mort. Même ma famille n'arrive pas à trouver mon père. Je n'ai personne à qui demander.
Des spécialistes du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, viennent en aide à des personnes comme Gedachew qui cherchent à retrouver leur famille. Andrea Nazis Chaden est un agent de protection du CICR.
S'ils ont perdu tout contact avec leurs proches, nous leur fournissons un service de recherche, à la fois pour recevoir des messages de l'étranger et pour en envoyer à partir d'ici.
Le CICR est l'une des organisations humanitaires autorisées à intervenir dans le Tigré. Les deux camps du conflit éthiopien ont été accusés de crimes contre l'humanité, mais l'ampleur du nettoyage ethnique qui aurait eu lieu dans le Tigré n'est pas encore connue. Les autorités éthiopiennes n'ont pas autorisé les journalistes et les enquêteurs des droits de l'homme à se rendre dans la région. La VOA a demandé si le service de recherche du CICR pouvait fournir des informations sur l'ampleur des atrocités commises dans le Tigré. Pascal Kouta est le chef de la délégation du CICR au Soudan.
Je n'ai pas de statistiques spécifiques concernant ce contexte ici, mais nous avons des milliers de personnes qui sont recherchées par des membres de leur famille et nous avons des douzaines de cas résolus. Bien sûr, le nombre de cas résolus va augmenter.
Selon Pascal Kouta, la plupart des situations prennent beaucoup de temps à être résolues quand elles le sont. Cependant, Getachew poursuit ses recherches avec l'aide de Chaden, l'officier de protection du CICR.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La diplomatie, la géopolitique et les droits des femmes sont au centre de la 27e WAF, conférence annuelle des femmes ambassadrices, ouverte jeudi dernier à Washington, ici aux États-Unis. Ces assises, qui se tiennent également en ligne, ont notamment permis de mettre l'accent sur le travail des diplomates afro-américaines ou africaines-américaines qui ont été notamment en poste en Afrique. Reportage de Nani Talani.
Organisée à Howard University, la conférence annuelle des femmes ambassadrices, WAF, a célébré le travail des femmes dans la diplomatie et les domaines connexes. Elle a réuni des diplomates, des étudiants et des anciennes ambassadrices issues des minorités qui ont édifié le public sur leurs missions qui, bien souvent, vont au-delà de la simple diplomatie. Mattie Chaplers, originaire de la Caroline du Nord, a été ambassadrice des États-Unis en Centrafrique de 2001 à 2003.
Ma plus grande réussite en tant qu'ambassadrice a vraiment été de pouvoir travailler avec les agriculteurs de la Centrafrique, d'essayer de les aider à produire certains produits, car le sol est tellement riche. Et à cette époque, les États-Unis faisaient la promotion de la biotechnologie et le Burkina Faso produisait du coton biotechnologique. Et ce fut un tel succès.
Le succès, Shirley Barnes, autre ancienne diplomate américaine, affirme l'avoir aussi connue quand elle travaillait dans plusieurs ambassades et missions diplomatiques des États-Unis en Afrique, notamment en Égypte, au Sénégal et en RDC. Mais l'une de ses plus grandes expériences, confie-t-elle, reste la période où elle a représenté son pays en tant qu'ambassadrice à Madagascar entre 1998 et 2001.
Ce fut l'une des meilleures expériences de ma vie. En tant que femme de couleur afro-américaine, j'étais très très intéressée à faire quelque chose pour les femmes dans le pays et aussi à éduquer les enfants. Les femmes de ce pays font beaucoup d'agriculture. Nous avons donc pu les aider. Elles m'ont aussi beaucoup appris sur la sympathie, les droits de l'homme et le fait que les femmes savent aussi comment gagner de l'argent.
Leurs expériences ont instruit les futurs diplomates issus des minorités et le grand public sur les grands enjeux des affaires internationales. Lydia Gebro, originaire de l'État de Tennessee, étudie les affaires internationales à Howard University en espérant finir diplomate.
Mes futures aspirations professionnelles se situent entre le droit international et la diplomatie et la communication interculturelle. Venir à cette conférence et pouvoir entendre ces ambassadeurs actuels et des gens qui ont simplement été dans le domaine diplomatique et qui ont ces expériences, c'est formidable.
La WAF veut également fournir des modèles aux étudiants, en particulier ceux issus des minorités dans le domaine diplomatique, comme Malik Ngougi. Originaire de l'État du Kansas, il est étudiant en sciences politiques à Wade University.
Je suis actuellement en stage pour une organisation qui promeut les femmes, la paix et la sécurité. Je suis vraiment intéressé par cette conférence pour entendre parler de l'expérience des femmes ambassadrices, en plus d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans les affaires mondiales et internationales.
Les discussions ont été suivies d'une plénière avec les ambassadrices en poste à Washington. Les débats ont aussi porté sur les femmes dans les zones de conflit, post-mortem des différents sommets d'Afrique, la géopolitique de l'Europe et de l'Afrique, l'érosion des droits des femmes dans le monde, ainsi que genre et progrès social.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia, à la mise en onde Firmin Koyaweda, à la console Bob Bass. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.